Alors, comme vous le savez, j'ai fait l'école biblique. Bon, ça, c'est pas un scoop. Depuis un an. Et il y a un sujet sur lequel on nous parle beaucoup, on nous enseigne beaucoup, parce que l'école s'appelle Kingdom Faith. Donc, on nous parle beaucoup du royaume de Dieu. Et pour moi, ce matin, quand pasteur André m'a demandé d'apporter quelque chose, j'ai senti qu'il fallait que je vous partage ce que j'avais reçu, ce que j'avais compris par rapport au royaume de Dieu. Un des aspects. Donc, ce que je vais vous transmettre, ça va être un mélange de ce que j'ai reçu, un mélange de mon intelligence, un mélange de du Saint-Esprit, et tout ça mixé ensemble. Voilà, je vais vous, essayer de vous le partager du mieux possible, une bonne recette. Et en fait, voilà. Donc, ça consiste le royaume de Dieu. Et j'aimerais commencer avec ce verset. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et le mot puissance ici, c'est dynamis, et ça veut dire la puissance de pouvoir faire des miracles. C'est la puissance de pouvoir faire des choses surnaturelles, en fait. Donc le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Mais premièrement, j'aimerais qu'on voit ensemble notre position, la position qu'on a en Christ. Pour moi aussi, il a fallu que je me replonge bien, que je retrouve mon identité en Christ, alors que ça faisait plus de 30 ans que j'étais... 32 ans même. Je suis né dans un foyer chrétien, mais enfin voilà, je connaissais mon identité en Christ, mais pas totale, on va dire. Et puis donc plus on creuse dans la Bible, et plus on découvre des facettes. Et donc on va s'aider du livre des Éphésiens. Et j'ai relevé les trois en lui. Ok, ce que nous avons en lui, en Jésus Christ. Donc Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3. Alors en lui, Éphésiens 1, verset 4. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alors, il y a un but. Alors déjà, Dieu nous a élus en lui avant la fondation du monde. C'est excellent, parce qu'avant la fondation du monde, déjà en Jésus-Christ, Dieu le Père nous avait choisis. Alors déjà, ça... Ok, merci Père, parce que déjà tu pensais à moi, même avant la fondation du monde. Wow. Et il nous a choisis pour que nous soyons saints, irrépréhensibles, et aussi appeler ses enfants d'adoption en Jésus-Christ. Et en fait, c'est une identité qu'on a du mal à... Enfin, moi, j'avais du mal un petit peu à accepter. C'est qu'en Jésus-Christ, je suis saint. Et je suis irrépréhensible. Et je suis sans reproche. En Jésus-Christ. Pas moi, mais en Jésus-Christ. Quand je l'accepte, j'ai la nature de Christ. Et cette nature me rend saint, irrépréhensible. Et donc, devant vous, et nous tous ensemble, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, on est tous des saints. C'est... Ça va ? Puisque là, c'est... Bon, peut-être que vous, pour vous, c'était déjà une révélation que vous avez déjà acquise, mais c'est bon de se le rappeler. Alors, premièrement, en lui, nous sommes saints, irrépréhensibles, et c'était Dieu qui l'avait choisi avant la fondation du monde. C'est génial. Alors, en lui, nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. Donc, on continue dans les en lui. Deuxièmement, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Donc ça, c'est Éphésiens 1, 11. Et donc, comme on est ses enfants d'adoption, on reste pas juste les enfants. Enfin, on a aussi l'héritage, quoi. Et tout l'héritage que Christ a, nous l'avons aussi. Donc toutes les bénédictions, quand on accepte Jésus-Christ dans notre vie, toutes les bénédictions que le Père et toutes les promesses que le Père avait promises en Jésus et pour son peuple, nous qui étions pas du peuple juif, enfin je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros toutes les promesses qu'il avait données à Jésus, on les a en acceptant Jésus. Ça a du sens ce que je dis ? Ça va ? Ok. Continuez, vous allez voir petit à petit, je me décoince et après ça part. Donc, troisièmement, en lui, nous avons par la foi, donc en Jésus-Christ, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Éphésiens 3, 12. Et ça pour moi, c'est à chaque fois un verset que je me rappelle, malgré toutes les circonstances et malgré aussi tout ce qui peut se passer autour de moi. Quand je reviens et que je redemande pardon si j'ai péché ou si j'ai fait quelque chose qui ne va pas, en Jésus-Christ qui me rend saint, irrépréhensible, j'ai à nouveau cette confiance de m'approcher de Dieu avec assurance. Et de Dieu le Créateur, de Dieu qui a créé la terre, de celui qui m'a créé, qui nous a créé, je peux m'approcher de lui avec assurance. Des fois, moi dans ma mentalité un petit peu, quand j'étais petit, alors, j'ai une image du Père, un peu comme le Père Fouettard. C'est-à-dire, Dieu, il me donnait des règles, et si je ne faisais pas ça, enfin, pour moi, être chrétien, c'était ne pas faire ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, j'aimais Jésus, parce que je disais, oh, Jésus, t'es cool, dans la Bible, voilà, j'ai vu dans le Nouveau Testament, tu fais des miracles et tout. Le Père, moi, je le voyais plutôt comme dans l'Ancien Testament, vous voyez, qui juge, quoi, qui, si tu fais pas un truc bien, ça tombe. Et le Saint-Esprit, j'étais Saint-Esprit, vous voyez, ouais, ok, Saint-Esprit. Et du coup, j'ai vraiment pris cette année, mon désir, c'était, je voulais vraiment connaître le rôle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que les trois sont liés et les trois sont équivalents. Il y en a même un contre qui le péché n'est pas pardonnable, c'est contre le Saint-Esprit. Mais je ne vais pas rentrer dans là, sinon je m'écarte. Et donc, en Jésus-Christ, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc ça, c'était les trois points que nous avions en Jésus sur notre position en Christ. Qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène une nouvelle façon de nous voir. Et ça aussi, pour moi, c'était... Il y a certains chrétiens, on est chrétien, mais on a une façon de nous voir un petit peu réductrice. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, je suis chrétien, mais voilà, quoi. Je peux pas faire grand-chose pour Dieu, finalement, parce que, voilà... Moi, quand je lis la Bible, enfin, quand je lisais même la Bible avant, c'est que pour certains hommes. Quand je vois les prophètes, ce qu'ils faisaient dans l'Ancien Testament, waouh, ils faisaient des miracles. Mais quand je vois les disciples de Jésus, ils faisaient des miracles aussi. Mais non, moi, je suis chrétien. Et, regarde, j'avance pas avec Dieu. Un coup, je prends 15 minutes avec Dieu. Un coup, je prends 5 minutes. Des fois, pendant une semaine, je lis pas ma Bible. Je suis vraiment pas un bon chrétien. Vous voyez un peu l'image qu'on peut véhiculer. Et ça, c'est l'ennemi qui utilise un peu nos pensées, comme ça, nos raisonnements, pour nous ralentir, en fait. Et là, je m'adresse peut-être plus particulièrement aux jeunes, mais à tout le monde. L'ennemi, il n'aime pas la jeunesse. Il n'aime pas une jeunesse bouillante pour Dieu. Il n'aime pas, en tous les gens, mais il n'aime pas la jeunesse qui est bouillante pour Dieu. Pourquoi? Parce que c'est quand on est jeune qu'on a le plus de temps disponible pour Dieu. Même si on a les études, même si on a tout ça, c'est là où on peut donner un maximum pour Jésus, parce qu'on a de l'énergie, en prenant, forcément, en prenant la sagesse des anciens. Parce que comme Moïse et Josué, on doit toujours avoir ce rapport jeunesse avec les anciens et anciens avec jeunesse. Enfin, c'est vraiment un travail de collaborateur. Alors, une nouvelle façon de nous voir, ça c'était mon deuxième point dans notre position en Christ. Alors, regardons dans Romains 6, 11. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est un nouveau regard qu'on doit porter. C'est-à-dire, une fois que j'ai accepté Jésus dans ma vie, c'est bon, je suis mort au péché, il faut que j'arrête de me reconvertir, on va dire, tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai accepté Jésus dans ma vie, bien sûr, quand je pèche, je me repens, mais je ne dois pas tout remettre en question. Oh, est-ce que je suis chrétien? Est-ce que Jésus habite vraiment dans moi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un nouveau regard. Je suis mort au péché et comme vivant pour Dieu. Donc dites à votre voisin, purée, pour un mort, t'as plutôt l'air vivant. Non mais vous voyez en fait... la vision de Dieu, c'est ça. Il prend les choses naturelles pour nous confondre. Il dit, t'es mort, mais t'es vivant en moi. Mais là, vous n'êtes pas mort, sinon vous ne pourriez pas répondre. Puis moi, je ne suis pas mort, sinon... Enfin bref, on ne va pas rentrer dans le... On a une position aussi, une nouvelle façon de nous voir. Nous sommes morts, Colossiens 3, 2, et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et ça, j'aime bien aussi, puisque du coup, on voit tout le rôle du Père, on voit le rôle du Fils... Le Père nous a tant aimé qu'il a donné Jésus-Christ pour qu'il meure pour nous. Et maintenant, nous sommes cachés en Christ avec Dieu. Vous voyez, il y a encore cette unité. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc là, d'un coup, vous dites, purée, David, tu pars loin. Non, c'est la Bible. C'est dans Éphésiens 2, 7, en Jésus-Christ. Il nous a, donc nous, on est morts à nos péchés, on est ressuscités et on est ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, quand on est dans les lieux célestes, on voit les choses, avec un panorama, beaucoup plus large, quoi. Nos difficultés, vous savez, il y a cette image, plus on s'éloigne et plus on voit les choses petites. Et moi, des fois, je me dis, quand je vois les circonstances un peu qui vont pas, je me dis, non, mais c'est vrai, je suis positionné en Christ, je suis dans les lieux célestes. Et là, d'un coup, les difficultés, puisque je me positionne en Christ, la difficulté, elle s'amoindrit. Vous voyez ce que je veux dire? Si je reste dans ma position en tant qu'humain, forcément, je vois la montagne et voilà, je suis au pied de la montagne et je dis mince quoi. Et je me dis purée, en tant que chrétien, je vois la montagne, je peux rien faire alors que la Bible me dit que je peux déplacer la montagne. Pourquoi? Parce que je dois avoir ce regard, mais c'est une discipline. Je dois me regarder comme mort au péché et je dois accepter que je suis aussi assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous voyez? Du coup, la montagne, ça devient un petit caillou quoi. Donc j'ai un petit peu plus vite. Pourquoi faire? J'avais noté ça. Pourquoi faire? Dieu m'a choisi avant la fondation du monde. Il me rend saint, il me rend irrépréhensible. Il me dit maintenant tu te regardes mort au péché, vivant pour Jésus-Christ. Mais pourquoi faire? Moi, c'était des questions aussi que je me posais. Je suis chrétien, mais pourquoi faire? Ben, je suis honnête avec vous. Hein, c'est des questions peut-être que vous ne posez pas. Ou moi, je me pose des questions un peu. Voilà, je vais au fond, je me partage avec vous tout. Pourquoi faire? Alors, on trouve toutes les réponses dans la Bible. Car comme nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2.10. Donc Dieu, il a vraiment tout prévu en fait. Il nous a choisis avant la fin du monde, donc Éphésiens 2.10. Et il nous a choisis, mais pour un plan, il ne nous a pas juste choisis comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Tiens, je vais choisir les êtres humains pour des marionnettes. Vous voyez, un peu, des fois c'est un peu l'image qu'on a, quoi. On se dit, tiens, je suis peut-être une marionnette, ça va pas, Non, il nous a choisis parce qu'il a déjà prévu des bonnes œuvres pour chacun d'entre nous, mais aussi pour qu'on les pratique. C'est pas, tiens, j'ai une mission, et puis on attend, et puis on la fait pas. Vous voyez, il nous donne des bonnes œuvres. Déjà, les œuvres, elles sont bonnes, mais en plus, pour qu'on les pratique. Donc, je trouve que c'est finalement, Dieu est bon. Ok, donc, et en plus, il y a ce verset aussi, Éphésiens 3:20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, donc là on retrouve le dynamis, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. C'est le même mot en grec. Merci. Or, à celui qui peut faire par la puissance, le dynamis qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3:20, c'est dans la Bible, c'est pas mon interprétation, c'est Dieu qui le dit. Vous voyez? Donc il nous donne des bonnes œuvres à faire pour qu'on les pratique. Mais même si je m'imagine, tiens, ouais, j'aimerais bien. Par exemple, vous voyez le top, enfin pas le top, mais dans les églises, alors je vais peut-être vous choquer, hein, mais ce qu'on aime bien, c'est faire la louange. Voilà, c'est vrai, on dit, quand le gars fait la louange, je parle parce que je suis leader de louange aussi dans mon église, donc je me casse en même temps moi-même. Hein. On dit, les leaders de louange, c'est génial, quand je serai grand, enfin quand j'étais petit, j'étais comme ça, je serai leader de louange, machin, parce qu'on aime bien chanter, puis je chanterai pour Dieu et tout. On verra plus tard que c'est même pas ce que Jésus nous a demandé dans une des missions. Enfin, ça fait partie du culte, mais je veux dire, vous voyez, des fois, quand on demande aux jeunes, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire une école de leader de louange. Ah ouais? Ok. Enfin, moi aussi, j'étais un peu comme ça. Je veux faire une école de leader de louange. Et mon pasteur, mon toi, j'attends. Va déjà faire une école pour travailler ton caractère. Et après, on verra. Après, c'est très bien de faire les écoles de louange. Attention, hein, je suis pas contre ça, mais c'est un peu mon. Voilà, je partage un peu ça. Pourquoi faire? Et dans 1 Corinthiens 3,9, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, et il nous appelle aussi ouvriers avec Dieu. Il nous donne du travail en fait. C'est énorme. Dieu, il nous a sauvés, il nous a créés, et il nous donne du travail. Donc si vous n'êtes pas au boulot, si vous n'avez pas du boulot, si vous comptez sur Pôle emploi, il y a un employeur sur lequel vous pouvez vraiment compter, c'est Dieu. Parce que lui, il a du boulot. Hein. Et sur la terre, il y a du boulot. Et en fait, il a besoin de nous pour faire venir le royaume de Dieu sur la terre. C'est ça le boulot, entre guillemets. On est ouvrier pour ça, c'est ça notre mission. Et là, d'un coup, tu acceptes Jésus dans ta vie et tu dis, waouh, ah oui, en fait, il y a plein de choses à faire. Je ne suis pas juste chrétien pour venir le dimanche. Et puis, il y a des saisons comme ça, où on vient le dimanche, on reçoit, on se ressource, mais aussi des saisons. Et un petit peu tous dans notre vie, on a tous un témoignage où on peut témoigner qu'on a été ouvrier avec Dieu. On a donné un témoignage, ça a béni quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'essaie de vous encourager. Hein. Je veux pas me mettre en avant ou quoi que ce soit, parce que je suis comme vous. Hein. Et dernier point, donc, dans cette position, j'ai essayé d'accélérer en fait. Faudrait que je m'arrête à midi. Je pensais en fait, non mais ça va aller. Parce qu'en fait, le cœur du sujet, il est même pas là. C'est juste une intro, mais bon, dernier point de l'intro. Et après, on va passer au cœur du sujet, qui est vraiment excitant. Une nouvelle façon de penser selon la norme de Jésus. Parce que des fois, on a des façons de penser. Voilà, on va se calquer sur un grand leader. Je vais dire, tiens, je vais penser comme lui. Parce que, il fait plein de trucs et tout. Mais en fait, dans la Bible, Dieu nous demande, et Jésus nous demande, d'avoir la pensée de Christ. Et on va voir c'est quoi la norme, en fait, de Jésus, le standard de Jésus. Vous voyez, il y a un standard, quoi. Un standard écrit par la Bible et donné par Jésus et qui est quand même pas mal. Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que juste avant, donc dans Matthieu 6, 25 à 32, on va le prendre ensemble, parce que c'est un petit peu long. Matthieu 6, alors 25 à 32. On va voir l'ancienne façon de penser, puis après on va voir la norme de Jésus en fait. Dans ces versets, on a un petit aperçu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps pas plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Et là on a une clé, car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Vous voyez ? Et moi dans ma mentalité aussi, j'étais un peu comme ça. Parce que c'est une mentalité, c'est la mentalité du monde. Vous êtes d'accord avec moi ? On a besoin de se nourrir, on a besoin de se vêtir, on a besoin de répondre aux besoins financiers, économiques, matériels, sentimentaux. On a besoin de répondre à tous ces besoins dans notre vie, c'est des besoins normaux. Et là, Jésus, il renverse sa mentalité. Il dit, premièrement, tu t'occupes du royaume de Dieu, et au lieu que ce soit toi qui va trouver de quoi répondre à tous ces besoins-là, comme tu me mets moi en premier, eh bien moi je vais répondre à tout ça. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Donc voilà, c'est aussi une nouvelle façon de penser, voyez, une nouvelle mentalité. Tout abandonner, tout à l'heure il nous l'a partagé Rémi, tout abandonner pour Jésus, c'est ça, c'est aussi abandonner notre droit à la réflexion, notre droit à l'inquiétude, j'ai envie de dire. Le droit de dire, ah purée mince, comment ça va se passer ? Non, Jésus dit, recherche le royaume de Dieu, et ensuite je pourvoirai à tous tes besoins. J'avais pris quelques notes, ouais. En dépendant de sources naturelles, on va dire, on va voir aussi des besoins, ça va répondre à des besoins naturels, mais Dieu, c'est une source surnaturelle. Et en nous abreuvant de cette source surnaturelle, de cette eau vive, non seulement il va répondre aux besoins naturels, mais il va aussi répondre à nos besoins surnaturels. Vous voyez un peu la puissance du royaume de Dieu. Donc ma deuxième partie, c'est... Il y a 10 parties. Hein. Non, non. Non, en fait, je me suis réveillé à 3h du matin et ça vous rappelle quelqu'un ? Non, je ne me suis pas du tout réveillé à 3h du matin. Non, je me suis réveillé à 5h du matin et je me suis rendormi parce que j'étais crevé. Mais je ne suis pas comme pasteur Elena Croft. Ouais. Ouais, peut-être qu'il voulait me dire quelque chose d'autre, Seigneur. Et pardon, hein, j'ai eu la flemme. Donc, 7 sphères d'influence dans le monde. Là, on va passer à l'étape un peu supérieure. C'est une étude qui a été faite et pasteur, celui qui a créé Jeunesse en mission, ouais, Laurine Cunningham, merci. Avec d'autres pasteurs, ils ont un peu classé ça comme ça. Il y a 7 sphères d'influence dans le monde. Alors, il y a la famille, la religion, l'économie, l'éducation, le gouvernement, arts et médias, sciences et technologies. Déjà, nous, on peut un peu situer chacun par rapport à nos métiers où on est dans ces 7 sphères d'influence. Voyez, famille, religion, économie, éducation, gouvernement, arts et médias, sciences et technologies. Pourquoi je vous parle d'un coup des 7 sphères d'influence ? C'est parce que si Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres, si Dieu nous fait ouvrier avec lui, c'est aussi pour qu'on puisse, dans ces sphères d'influence, justement, se positionner et apporter la puissance du royaume de Dieu. D'accord ? Donc dans Ésaïe 61, on le connaît tous. Ésaïe 61. Moi, j'avais l'habitude de lire la première partie du verset. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. On connaît tous ce verset. On l'a tous entendu. On a beaucoup. Voilà. Mais il y a une deuxième partie. Donc, l'Esprit du Seigneur, on a une mission, c'est pour guérir, délivrer, sauver. Mais aussi, regardez juste au verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Et en fait, souvent, moi, dans ma mentalité, je me disais, ouais, ok, je peux avoir de l'influence dans mon entourage, mais est-ce que je peux avoir de l'influence dans ma ville, dans ma nation, dans mon pays, voyez? Et ça fait partie de la mission que Dieu nous donne. Donc voilà, rebâtir, relever et renouveler. Et là, on va voir une histoire dans 2 Rois 2, 19 à 22, Élisée. Donc 2 Rois 2, 19 à 22. Alors Élisée, c'était le disciple d'Élie, pardon. Juste dans le début du chapitre 2, on voit sa passion d'avoir faim de Dieu, parce qu'on voit à travers toutes les étapes comment il va suivre Élie et comment il va être récompensé pour avoir cette double portion de l'esprit. Je pense que vous avez déjà entendu les prêches sur ce que représente Gilgal, Bethel, Jéricho, Jourdain. Donc c'est pas l'objet de mon partage aujourd'hui, mais juste rappeler que Élisée, c'était quand même un personnage qui était affamé des choses de Dieu. Parce que vous pourrez relire après, enfin, si vous avez envie, le chapitre 2, on va voir comment il lâche pas Élie parce qu'il va tout prix la double portion du Saint-Esprit, voyez. Et des fois, on rencontre des gens comme ça, on dit, oh purée, monsieur, il est trop bouillant pour Dieu, limite. Mais je pense qu'il y a des saisons dans notre vie où on doit être bouillant, comme ça, on doit être passionné. On doit être passionné de Dieu, puisque finalement, on peut pas s'arrêter à déjà ce qu'on a reçu. On partageait ça aussi avec les hommes ce matin. On a tout le temps besoin d'être renouvelé, voyez, et de rechercher à ce que Dieu nous parle, dans l'humilité, bien sûr, et dans la soumission. Donc, je vais lire à partir du chapitre, pardon, à partir du verset 19, chapitre 2. Les gens de la ville, donc la ville de Jéricho, dirent à Élisée: Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Or, à travers ce passage, pardon, on va essayer de relever quelques points. Déjà, le contexte de la ville de Jéricho. Donc, Jéricho, ça veut dire la ville des palmiers. Donc là, en fait, Élisée, il retourne en arrière. Il a reçu la double portion du Saint-Esprit. Déjà, il a fait un premier miracle parce qu'il a ouvert le Jourdain en deux. Ça commence comme ça, déjà, son ministère. Bing, il ouvre le Jourdain. Vous voyez, les prophètes à l'époque, ils faisaient des trucs vraiment spectaculaires, quoi. Mais du coup, les prophètes, enfin, c'était pour confirmer son appel, voyez. Déjà, il ouvre le Jourdain en deux, donc il plante le décor. Il traverse le Jourdain et il retourne vers Jéricho. En fait, il fait le chemin inverse. Il retourne vers Jéricho. Et là, les gens de la ville, ils viennent vers Élisée. Et donc, il y a un paradoxe, moi, je trouve, dans la description de la ville. C'est comme si, moi, j'arrive à une auberge en ville. Ils me disent: Ah, David, le séjour d'auberge en ville, il est vraiment bon, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Vous voyez, c'est le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Dans les eaux déjà qui sont mauvaises, ça a plein de conséquences. Déjà, quand les eaux d'une ville ou d'un pays sont mauvaises, ça apporte que des maladies. J'avais noté, source Solidarité Internationale, 7 à 15 personnes meurent par jour à cause de l'eau non potable, à cause des maladies que ça génère. Vous voyez ce que je veux dire? Indirectement, dès qu'il y a de l'eau non potable dans un pays, mais c'est quand même énorme. 7 à 15 personnes par jour meurent à cause de l'eau non potable, de la mauvaise eau, voyez. Aussi, ce site, Source Solidarité Internationale, dit qu'apparemment ce serait une des premières causes de mortalité dans le monde. Des mauvaises eaux, à cause de toutes les maladies, d'accord, ça décline, je ne vais pas faire la liste, parce que je ne les ai pas notées, je les ai lues, mais il y a plein de maladies, quoi, à cause des mauvaises eaux. Et du coup, c'est pour ça que le constat, il est alarmant, en fait. Ils disent, bon, le séjour, il est bon, parce qu'il y a des palmiers, je pense, mais à mon avis, les palmiers devaient un petit peu avoir mal à la tête, parce que si les eaux sont mauvaises, enfin, j'imagine les palmiers, enfin, bref, alors, je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne suis pas avec des jeunes, non. Et le pays est stérile. Et en fait, le mot stérile, ça veut dire aussi dans la version que les femmes étaient privées d'enfants, pardon, elles avortaient. C'est-à-dire, ce pays, cette ville, non seulement ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants, mais ils étaient privés d'enfants. Il y avait de l'avortement, il y avait de la mort en fait. Donc il y avait les eaux qui étaient mauvaises, mais ce pays, il y avait la mort. Donc d'un coup, le constat, il devient vraiment alarmant, quoi. Le pays est bon, mais bon, les eaux sont mauvaises, donc Déjà, tu ne peux pas te désaltérer. Les palmiers, bon, à mon avis, ils devaient faire. Donc, le pays, la ville devait ressembler à pas à grand-chose. Et en plus, le pays est stérile. Donc, il y a la mort. Et là, Élisée, il ne se démonte pas. Il vient de recevoir la double portion du Saint-Esprit, le dynamis. Et le Seigneur lui révèle une technique. Qu'est-ce que c'est? C'est verset 20. Donc, on reprend juste au verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » C'est... je sais pas. Moi, ça m'a surpris. Un plat neuf et du sel, c'est... Waouh! Disons, les prophètes, ils étaient connectés. Ils avaient déjà le haut débit avant Internet. Apportez-moi un plat neuf et du sel. Donc les gars, ils paniquent pas, hein, ils obéissent. Ils disent, bon, ok, bon, de toute façon, c'est Élisée. On l'a vu tout à l'heure, il a ouvert le Jourdain. On va pas trop le chercher, parce que ça se trouve... voilà, on va pas... On a connu que c'était le disciple d'Élisée qui faisait aussi des trucs un peu, voyez, un peu supernaturels. C'était un peu des super-héros, en fait, à l'époque. Hein. Voilà. Et du coup, il leur dit, apportez-moi un plat neuf et du sel. Donc, ils obéissent. Ils lui apportèrent et il alla vers la source des eaux. Donc, lui, il va à la source. Il a la technique, il reçoit sa révélation, son plat neuf et le sel, et il va à la source. Okay, il va à la source et là, il jette le sel et il dit, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux et n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Là, ce qu'on peut voir, c'est que Dieu donne, je pense, pour chaque ville, pas je pense, j'en suis sûr, parce qu'on le voit ici, pour chaque ville, pour chaque nation, pour chaque région, un plat neuf. C'est-à-dire, on l'a entendu aussi la semaine dernière, je ne vais pas prendre la technique qui a été utilisée dans un pays pour apporter ma technique dans mon pays pour essayer d'apporter l'évangile. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour moi, ce plat neuf et le sel, nous sommes appelés le sel de la terre. D'accord? Donc, Dieu, Matthieu 5, 13, nous sommes le sel de la terre, pour assainir les zones eau potable de nos villes. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce plat neuf, il a besoin d'être rempli de sel. Donc, il y a des hommes de Dieu en France, ou même dans cette ville, on est obligé de se tenir devant Dieu, de trouver notre plat neuf, comme on l'a entendu la semaine dernière. On ne doit pas aller prendre ça chez les Suisses ou chez les... Il faut se former toujours, mais je pense que pour la France, Dieu a vraiment son plat neuf aussi. Et il est en train de préparer ça, parce qu'on voit en France, ça bouge aussi, c'est en train de bouger pas mal. Mais il a besoin de sel aussi, et nous sommes le sel de la terre, pour venir et pour purifier ses eaux, pour assainir ses eaux. On voit aussi que l'autorité d'Élisée, il parle, il dit « J'assainis ses eaux, ils n'en proviendront plus, ni mort, ni stérilité ». L'histoire, elle dure que quelques versets, mais on voit la puissance. Il parle et au nom de l'Éternel, et il libère la bénédiction. Et c'est pour ça que je présentais ça, que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais aussi en puissance. Vous voyez, parce que des fois, on peut beaucoup parler, on peut dire, ouais, moi dans ma ville, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais si ce n'est pas le plat neuf que Dieu nous a donné, vous voyez, ou si vous n'avez pas le sel, vous pouvez gigoter, vous pouvez parler, vous pouvez faire plein de choses, mais finalement, il y aura peut-être des résultats, mais est-ce que ce sera les résultats que Dieu veut? Vous voyez, et je pense que pour notre ville, pour cette région, et pour chaque endroit où nous sommes, même pour notre travail, on peut réduire ça après. Vous voyez, Dieu veut qu'on apporte. Nous sommes le sel et il veut qu'on assainisse les eaux où nous sommes. Mais pas seulement des paroles, pas seulement dire oui, je m'engage Seigneur, c'est vrai. Tiens, mes collègues, ça fait 5 ans que je bosse avec eux, ils ne savent même pas que je suis chrétien. C'est pas grave, tu pries et Dieu va te donner ton plat neuf. Peut-être, je ne sais pas, vous allez faire un repas et d'un coup, quelqu'un il va poser une question un petit peu farfelue. Là, tu vas pouvoir rebondir et Dieu va te donner l'assurance et tu vas pouvoir assainir ses eaux. Parce que quand on parle et quand on libère l'action de l'Esprit en témoignant, on bénit, on a une influence. On a une influence, ça c'est la parole de Dieu. Voilà, donc les eaux mauvaises, comme je vous disais tout à l'heure, elles détruisent les vies humaines dans le naturel, mais aussi dans le spirituel. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des 7 sphères d'influence. Ces pasteurs parlaient de ça comme des montagnes. Vous voyez, il y a 7 montagnes. Et de ces 7 sphères d'influence, l'eau qui peut en descendre peut être une eau potable ou une eau non potable. Vous comprenez? Et si à la source, ce sont des gens qui ne sont pas en Dieu, forcément, ils vont pouvoir faire des choses bien, mais il y aura forcément du non potable dedans. Et ils n'auront pas les solutions pour sauver les gens déjà, puisqu'il n'y a que Jésus qui nous donne la vie éternelle, qui nous sauve. Et c'est pour ça que notre rôle en tant que chrétien, c'est de se positionner sur ces sept montagnes, si je peux parler ça, on est dans ces sept sphères d'influence, et que nous soyons ces sources d'eau vive, voyez, pour bénir, pour changer la malédiction en bénédiction, comme c'est dit dans Deutéronome 23.5. Là, c'est énorme ce qu'il a fait, puisque du coup, la ville de Jéricho, eh ben, les ont été assainis, et ils ont retrouvé plus ni mort ni stérilité. Voyez. Donc il y a eu le miracle du dynamisme, parce qu'un homme de Dieu s'est levé. Bon là, il était prophète, mais moi, dans mon ancienne mentalité, voilà, il n'y avait que certaines personnes. Voyez. Mais en fait, non, Jésus, dans le Nouveau Testament, il nous dit « Nous sommes le sel de la terre, voyez, pour assainir les eaux. Nous sommes la lumière du monde. » Donc dans Matthieu 5, 13 et 5, 14, à la suite, « Nous sommes la lumière du monde pour éclairer notre ville. » Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, dans Jean 7, 38. Et ce matin, Dieu me rappelait l'importance qu'on a d'être chrétien, notre responsabilité. Mais aussi, des fois, on peut s'imaginer que du coup, la mission, elle est impossible. Voyez, c'est un peu mission impossible, quoi. Mais non, Jésus nous donne toutes les clés. Il utilise déjà, j'ai utilisé les cinq dernières minutes pour mon dernier point. C'est que le recrutement de Jésus pour le RDD, pour le royaume de Dieu, il est complètement différent du recrutement que vous avez ici sur Terre pour n'importe quel poste. Ben, je pense que tout le monde ici, on est passé par des phases de recrutement. Quand vous cherchez un poste, déjà, il faut correspondre au poste, ça ok. Mais il faut vous vendre, c'est-à-dire il faut arriver, il faut dire « Ouais, non mais moi, machin, le CV, vous mettez le meilleur, s'il cherche, vous voyez. » Donc il faut essayer de vous vendre, il faut vous mettre en avant. Et dans le royaume de Dieu, c'est le contraire. Jésus, il recherche les humbles. Il dit le royaume de Dieu, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, Matthieu 5. Voyez. Et les pauvres, c'est les simples, il faut rester simple. Comme un enfant, Marc 10, 15, le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui sont comme un enfant. Et Jésus, il recrute pour le royaume de Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu, mais il y a aussi une attitude de cœur. Vous voyez, si on arrive comme ça en disant ouais, Jésus, tu vas voir, moi je vais faire ci, je vais faire ça, ça ne marche pas. Dieu il utilise les choses faibles pour confondre les folles. Et ce matin, peut-être, avec tout ce que j'ai énuméré, tu te dis, ouais, là, David, super, tu m'encourages, mais tu me fais plus peur qu'autre chose. Et non, moi, mon désir, c'est vraiment de vous encourager. Et vous savez, dans la ville de Jéricho, ça vous rappelle aussi une histoire, peut-être juste un petit peu avant, l'histoire de Josué. Et j'aime bien, en fait, parce que Josué... Il a été utilisé. Vous vous rappelez ce qu'il a fait dans Jéricho ? Il a fait tomber les murailles. Il a fait tomber les murailles de Jéricho. Et peut-être, on passe dans des villes ou dans des saisons de notre vie où on doit faire tomber des murailles. Et Dieu veut nous utiliser pour faire tomber les murailles spirituelles aussi de nos villes, mais aussi de nos vies personnellement. Parce que premièrement, on doit faire tomber nos murailles à nous avant de pouvoir libérer les autres. Vous voyez, si je suis dans ma muraille, bah, si j'essaie de courir, je me prends la muraille. Je ne peux pas sortir de ma ville. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est un peu une image... Et Josué, pendant tous les premiers chapitres, Dieu n'arrête pas de lui dire « Fortifie-toi seulement et aie bon courage ». Et moi, c'est ce que j'ai envie de vous laisser ce matin. Qu'on soit fortifié, prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et tous les hommes de Dieu dans la Bible, quand ils ont pu relever le défi de Dieu, c'est parce qu'ils savaient que Jésus, que Dieu était avec eux. Voyez. Et quand Jésus nous laisse la mission dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et à la fin, il dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc nous aussi, on a ce même, vous voyez, on a toutes les caractéristiques, on a toutes les mêmes billes de notre côté. Ce qu'il faut, c'est maintenant avoir ce cœur humble comme Jésus, avoir cette attitude, dire « De toute façon, ce ne sera pas par mes forces, ce ne sera pas par mes aptitudes. Merci parce que tu m'as sauvé, c'est une grâce énorme. Merci pour la mission que tu mets devant moi, parce que je suis né pour quelque chose, j'ai un but, mais merci parce que je veux vraiment dépendre de toi pour que tu puisses agir à travers ma vie et que ces fleuves d'eau vive puissent couler de notre sein pour assainir, pour purifier tout notre entourage. Voilà.